suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur L'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent, mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcasts ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance. Petite news, pour les passionnés de podcasts qui rêveraient de créer le leur, j'ai imaginé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation, vous trouverez le nécessaire pour créer votre podcast et votre identité de marque. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Gérald. Arnaud Gérald, tu es né à Marseille en 1996. En raison de ta dyslexie, l'école est très difficile pour toi. À l'âge de 16 ans, tu suis ton premier cours d'apnée et atteins une profondeur de 30 mètres. Une grande performance pour ton jeune âge. Au fond de l'eau, tu ouvres les yeux et trouves enfin un endroit où tu te sens en sécurité. Un endroit que tu peux appeler ta maison. À partir de ce jour, tu as de nouveau respiré grâce à ta nouvelle passion. C'est certain, tu as trouvé ta vocation, la plongée en apnée. Bonjour Arnaud, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît?
Mais je m'appelle Arnaud Gérald, j'ai 24 ans, j'habite à Marseille en France et je suis apnéiste professionnel et double recordman du monde.
D'accord, super. Donc tu as découvert l'apnée donc très jeune. Je crois que c'est ton père qui t'y a initié. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette découverte?
Alors oui, c'est vrai que c'est mon père qui m'a initié à l'apnée très jeune. Déjà avec un masque et un tuba à l'âge de 16 ans. Et même un peu plus tôt à l'âge de 7 ans dans les calanques de Marseille. C'est un milieu qui m'a fait un peu peur au début parce que ça donne vraiment l'accès à un imaginaire démultiplié par rapport à ce qui se passe sur Terre. À l'âge de 16 ans, je découvre vraiment la discipline pure qui consiste à descendre le long d'un filin à une profondeur donnée et à remonter à la force de ses muscles. Donc c'est des lieux où on plonge généralement au large, au décote, et c'est un endroit où il n'y a pas de fond. La profondeur est presque sans limite. Donc on descend le long d'un filin dans le bleu total, sans repère de temps ni de profondeur. C'est une sensation qui m'a plu très vite, et notamment à ce moment-là, parce que j'avais de grosses difficultés scolaires dues à la dyslexie, un manque de confiance en moi et une timidité assez importante, des sens un peu aussi exacerbés, donc une hypersensibilité, et le fait d'être sous l'eau, ça a été une révélation.
Et justement, donc tu parles d'un petit garçon dyslexique. Est-ce que tu penses, enfin moi, une question que j'aime bien poser aussi dans le podcast, c'est le rapport à l'enfance et à ce qui s'est passé dans l'enfance qui peut déterminer la personne que l'on devient. Est-ce que tu penses, toi, que justement cette faiblesse a pu après jouer sur ta résilience et ta capacité finalement à être le meilleur, en tout cas à ton âge, sur ton domaine?
Oui, je pense que cette faiblesse de départ a été vraiment un point clé dans le sens qu'a pris ma vie les années qui ont suivi et qui continuent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en fait, on va le voir sur différents profils, des artistes, des sportifs. Quand on passe par ce genre de moments qui sont un petit peu difficiles à vivre, on a un gros manque de confiance en soi, on doute sur son avenir. Des événements comme découvrir une discipline, découvrir une passion, nous font grandir à vitesse grand V et nous font comprendre que le reste de notre vie sera notre passion. Donc on a un engagement qui devient total envers notre discipline et qui bascule vraiment tout ce qui pourrait se mettre en travers de notre chemin, que ce soit une discipline peu connue comme la mienne, qui présente aussi des risques, ou même des disciplines qui sont un peu plus connues, mais qui présentent aussi un engagement assez important.
Et justement, toi, au-delà de, bien sûr, de ta dyslexie et de ta timidité, est-ce que tu te rappelles le genre de petit garçon que tu étais, et est-ce que tu avais déjà finalement le goût du risque relatif à cette discipline qui n'est pas forcément donnée à tout le monde?
Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Petit, j'aimais bien partir à l'aventure, on va dire. On montait souvent les week-ends. À la montagne avec mes parents, on partait à la mer dans le sud de la France. Et j'ai toujours eu ce goût d'aventure et pas forcément me concentrer sur le risque que je prenais à ce moment-là, sans vraiment me mettre en danger. Mais voilà, je réfléchissais d'abord à l'aventure et le plaisir que j'allais prendre avant de me dire que j'allais prendre un risque ou pas. J'étais pas un enfant peureux malgré ma difficulté, ma timidité, mon manque de confiance en moi, mais dans ces moments-là, en fait, j'étais un petit garçon complètement épanoui. C'est plus dans le domaine scolaire que mes difficultés se ressentaient.
D'accord, très bien. Et donc tu as continué donc ta petite vie en faisant donc de l'apnée. Est-ce qu'il y a des cours d'ailleurs d'apnée? Comment tu pratiquais quand tu étais petit en fait? Tu prenais des cours?
Alors j'ai découvert l'apnée avec mon père, donc il m'a enseigné les premiers cours de base, on va dire, équilibrer les oreilles pour la pression, le fait d'y aller progressivement, donc il m'a vraiment initié à ça. Et puis ensuite, j'ai pu un peu aller dans différents clubs pour voir comment les apnéistes pratiquaient leur discipline. Alors il y en a qui étaient plus visés sur la compétition, d'autres plus sur le ressenti. Et du coup, j'ai pu me faire une démarche vraiment personnalisée, ce qui a été pour moi le point le plus culminant, le plus important de ma carrière, petite carrière, ça a été de faire vraiment ma passion avec ma vision. Donc ne pas recopier les autres ou bien ne pas suivre une voie qui n'était pas la mienne. Donc un côté assez autodidacte, on va dire. Et ça s'est fait un petit peu tout seul. J'ai découvert les profondeurs comme les 30 mètres, les 50 mètres et puis les 100 mètres, des chiffres un peu mythiques dans notre sport, assez vite, alors que tout le monde me disait, tu sais, l'apnée, c'est un sport de maturité. Aujourd'hui, les personnes qui font des records ont 30 à 40 ans. À ce moment-là, j'avais 18 ans et j'étais déjà à 70 mètres.
Waouh, bravo.
Donc, ça a été j'essaye d'écouter un peu ce qu'on me dit et puis je me rends compte que ça s'applique pas forcément à moi. Et puis très vite, j'ai fait mes premiers records du monde, notamment celui de l'année dernière et celui de cette année, à un âge qui n'était pas du tout prédestiné à ce niveau-là de performance. Alors pourquoi ça s'explique? Ça s'explique parce que je pense que cette résilience avec la dyslexie a été une force énorme grâce à la sensibilité que j'ai envers mes émotions, envers mon corps. Il faut savoir ressentir sa limite à ce genre de profondeur et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux dire que je suis le seul apnéiste à ne pas avoir fait de syncope au bout de deux records du monde et on continue comme ça. Et ensuite, c'est surtout, je voulais et je veux toujours basculer les clichés de mon sport et le faire grandir en construisant autour de moi une équipe vraiment professionnelle constituée de médecins hyperbares, de kinés, d'un préparateur physique. Ma famille joue un rôle très important dans cette aventure et en écoutant mes limites à chaque fois pour durer sur le long terme.
Super. Et pour parler justement de ton métier et de surtout du plaisir que tu as, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît pas du tout, enfin moi personnellement, je ne tiens pas, je pense, 20 secondes en apnée. C'est vraiment un sport, si on peut appeler ça un sport, qui représente vraiment l'inconnu. Toi, qu'est-ce que tu aimes dedans? Alors dans plusieurs interviews, tu parles de sensations, mais quelles sont ces sensations?
On va dire que dans une plongée qui dure à peu près 3 minutes, Chaque minute va représenter une journée d'émotions, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, l'énervement. En fait, c'est tellement condensé, tellement puissant que du coup, ça me permet de répondre à quelques questions que je me posais à la surface, sur la personne que je suis, et d'en découvrir encore plus sur moi-même. Voilà ce que je cherche à travers ces plongées. Au passage, il y a vraiment un côté compétitif qui s'installe automatiquement, hein, on va pas se le cacher. Une fois que j'atteins la profondeur de record du monde, ben je vais aussi essayer de battre ce record parce que ça fait partie de la discipline, parce que ça me permet aussi d'avoir de plus en plus de poids dans mon discours pour parler de mon histoire. Mais le record n'est pas la finalité dans mes objectifs.
D'accord, c'est plus en fait un, bah presque un processus en fait thérapeutique finalement, parce que c'est vraiment comme tu dis te connaître mieux, c'est impressionnant. Donc en fait tu penses lors du moment où tu es sous l'eau, tu penses en fait finalement.
Je pense énormément. C'est vrai qu'on a tendance à me voir au bord du bateau, très concentré, très calme, presque zen, alors que pas du tout. À l'intérieur de ma tête, ça va très très vite, et notamment sous l'eau. Le cerveau pense 3 fois plus vite sous l'eau parce qu'il doit engranger des automatismes de survie en quelque sorte. Et le moindre truc qui pourrait arriver et qui contraindrait la plongée, il faut agir très très vite. Donc, dans notre sport, on n'a pas d'adrénaline, on va dire, mais par contre, on a un moment où on est vraiment conscient de chaque sensation qu'on ressent. Et puis, le corps est aussi en position d'automatisme. C'est des plongées que j'ai tellement répétées au fil des années que je peux laisser mon esprit penser à des bons souvenirs, à une musique notamment qui me permet de garder le fil conducteur de cette plongée. Et profiter complètement de ce genre de profondeur qui paraissent un peu inaccessibles par moment.
C'est hyper intéressant. Et donc justement pour revenir donc sur ton record du monde, donc tu as quand même retenu ta respiration pendant plus de 3 minutes. Est-ce que toi donc tu l'as un petit peu répondu, mais est-ce que c'était un objectif pour toi de participer à de telles compétitions?
Alors finalement, la première fois que j'ai découvert cette discipline à 16 ans, je suis monté sur le bateau, je me suis dit, un jour tu seras apnéiste professionnel, un jour tu pourras être l'homme le plus profond tu pourras faire des records du monde et être au numéro un de ton sport. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, être numéro un de mon sport, ça représente aussi une découverte dans ce que l'humain peut faire. Pas pour avoir le titre ou avoir un petit peu de gloriole, mais vraiment pour être un petit peu un pionnier à mon niveau. Ce que ça m'apporte aujourd'hui de participer à ces compétitions, c'est que c'est des moments très intenses où on partage des moments extraordinaires avec les autres apnéistes qui font la compétition, mais aussi de se découvrir dans des moments de stress, de se découvrir dans des moments où il faut organiser une équipe autour de soi, comme on a pu le voir cette année dans un film qui est sorti sur moi qui s'appelle La Sagesse des Profondeurs, un 52 minutes, et ça représente plus une aventure humaine pour moi que juste un championnat du monde ou un record du monde.
Alors, super intéressant. Et d'ailleurs, on mettra justement ce documentaire. J'étais pas au courant. On le mettra dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller plus loin suite à ce podcast. Maintenant, j'aimerais en fait que tu nous parles, puisque voilà, j'imagine que cette discipline demande un grand entraînement. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement comment tu t'entraînes, tu te prépares à un tel exploit? Est-ce qu'il y a des techniques? Donc, par exemple, on sait très bien que la visualisation, ça peut être vraiment utilisé par les sportifs de haut niveau. Est-ce qu'il y a des techniques pour se préparer aux conditions extrêmes? Est-ce que toi, tu as lu personnellement? Est-ce que tu t'es inspiré de lecture, de mentors? Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça?
Alors oui, il y a tout un entraînement que j'ai mis en place depuis très tôt sur la partie mentale et physique. On va dire que dans notre discipline, la partie mentale représente 80%. La partie visualisation est quelque chose que je pratique depuis le début. C'est vraiment un fil conducteur qui permet d'acquérir des automatismes hors de mes plongées, parce qu'il faut savoir que une plongée à ces profondeurs-là, j'arrive le matin sur le bateau, je fais ma profondeur, et puis la journée est finie. Et après ça, je dois faire 3 jours de récupération sans plonger. Donc, j'ai pas forcément la tête sous l'eau tous les jours. Donc, la visualisation me permet de continuer à acquérir de l'expérience. Ensuite, je m'entoure. Je m'entoure de ma famille, ce qui joue une part mentale énorme, et de professionnels. De professionnels comme des médecins hyperbares, avec qui je fais des tests chaque année pour contrôler si mon corps est prêt à descendre à ces profondeurs, si mon entraînement aussi est dans une courbe croissante. Et ça me permet de gagner de la confiance en moi ou de travailler sur certains points qui pourraient pêcher. Je m'entraîne au Cercle des nageurs de Marseille, à côté de nageurs comme Florent Manodou et bien d'autres, qui me permettent d'avoir une équipe autour de moi, une équipe de professionnels, une équipe de sportifs olympiques. Ça donne une dynamique très positive. Voilà, c'est alors même préparateur physique qui me suit. Et ça me permet voilà, de m'évader un petit peu du milieu sous-marin. La pratique du VTT, que je pratique depuis l'âge de 7 ans, beaucoup de VTT, j'adore la nature. C'est très très bon pour les cuisses, c'est l'acide lactique notamment qui a beaucoup dans ma discipline. J'ai un kiné qui me suit, il faut beaucoup d'étirements. Il faut que la cage thoracique et le diaphragme soient très souples, parce qu'il faut savoir que à 100 mètres, mes poumons font la taille d'une orange, donc il y a beaucoup de pression, et il faut que mon corps puisse absorber et accepter cette pression. Voilà, et après, voilà, c'est pour la partie sportive, et pour la partie entreprise, j'ai aussi une équipe qui me suit. Donc c'est toute une entreprise, j'ai envie de dire.
Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu en vis depuis combien d'années ?
J'en vis depuis maintenant 2 ans. J'ai monté mon entreprise, ma SAS. Mes revenus se constituent généralement de conférences que j'effectue, notamment sur le risque. C'est un sujet que j'affectionne beaucoup en entreprise. Ça permet d'avoir une démarche que les employés peuvent mettre en place les matins ou toute l'année pour aller travailler en toute sécurité. Mes partenaires aujourd'hui qui jouent un rôle important. Sur la partie fédérale, on n'a pas d'aide parce que ça reste une petite fédération. Mais ça me permet aussi d'avoir une grande liberté sur mes choix de carrière. Et ensuite, je me concentre de plus en plus sur la réalisation de projets vidéo, notamment ma dernière vidéo qu'on peut voir sur mon Instagram, qui s'appelle Below. C'est une vidéo qui a été réalisée l'année dernière à Tahiti, sous une vague entre le corail et les vagues, donc c'est assez extrême, on va dire, mais ça donne une sorte de danse aquatique. Mmh.
L'apnée consiste à bloquer sa respiration. Je pense que c'est ce que tout le monde connaît, en fait. Bon, voilà, n'importe qui veut faire de l'apnée, il va bloquer sa respiration. Mais comment toi, enfin, alors je sais que c'est compliqué, surtout par le podcast, tu ne peux pas nous montrer, mais comment ça se passe concrètement pour que tu puisses rester aussi longtemps en fait ? Voilà, tu prends le maximum d'air, mais comment tu fais ? C'est-à-dire, comment tu y arrives plus que quelqu'un d'autre en fait finalement ?
Comme j'ai commencé très tôt cette discipline, mes poumons se sont adaptés et aujourd'hui j'ai entre 7 et 8 litres de capacité, alors que la normale est constitué entre 5 et 6 litres. Néanmoins, on peut tous... la capacité pulmonaire n'est pas vraiment importante, on va dire. Ça joue un rôle, mais c'est comme si une voiture pouvait avoir 300 litres d'essence au lieu de 20 litres. Si le moteur ne sait pas utiliser cette essence, ça ne sert à rien. Le moteur, pour nous, c'est le cerveau, donc le mental. Comment je prends mon air ? Je souffle un maximum d'air. Et ensuite, je vais gonfler d'abord le bas du ventre, la partie abdominale, et ensuite le haut de la cage thoracique. Donc, c'est en 2 temps. Il y a plusieurs techniques, plusieurs pratiques qui peuvent aider à cette prise d'air, notamment le pranayama. voilà, c'est très important pour moi aujourd'hui d'avoir cette capacité à bien respirer pour mes apnées, mais aussi en dehors, dans la vie de tous les jours. Ça me permet aussi de calmer aussi mon souffle pendant les efforts, et puis de gérer la pression, peut-être avant des conférences ou avant des interviews, avec un exercice très simple qui s'appelle aussi la respiration carrée. J'inspire pendant 5 secondes, je retiens ma respiration pendant 5 secondes, je souffle pendant 5 secondes et je retiens 5 secondes. Donc cette respiration va permettre de réguler le rythme cardiaque et je trouve ça très intéressant, même avant de dormir, ça permet de s'endormir de suite.
Super. Et par rapport au risque, justement, qui est le sujet de ce podcast, est-ce que tu penses, toi, au risque lors de la préparation, et comment, finalement, vous vous préparez, donc toi et tes entraîneurs, pour les éviter? Donc, j'imagine que les différents risques, c'est l'évanouissement, mais peut-être qu'il y en a d'autres.
Alors, je suis conscient du risque, et c'est peut-être l'une des choses un peu les plus rares qui arrivent dans mon sport. Les apnéistes en général veulent aussi détourner le regard du risque pour ne pas prendre conscience de l'acte qu'ils sont en train de réaliser et de se concentrer sur le relâchement. Néanmoins, le risque prend une part un peu plus importante quand on choisit cette voie. Je préfère regarder le risque droit dans les yeux et de me dire, ben, si aujourd'hui tu as envie de plonger sur une plongée record du monde, il va falloir que tu équilibres la balance du risque. Donc, je prends tel risque, mais en contrario, je mets telle équipe et tel moyen pour équilibrer et avoir une part de risque qui est minime. Ça veut dire engager un drone qui me permet de me voir au fond de l'eau quand j'arrive en bas, avoir une équipe assez conséquente autour de moi, à peu près 15 personnes, avoir des médecins sur place, avoir des entraînements qui sont raccord avec mon annonce. Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai fait 95 mètres qu'il va falloir que j'annonce 100 mètres d'un coup. Je vais aller à 96, 97 et y aller pas à pas. C'est avoir ma famille autour de moi qui me permet de garder toujours les pieds sur terre, malgré l'envie de découvrir ces nouvelles profondeurs. Et aussi, c'est être franc avec soi-même et avec les autres. C'est une discipline où si on n'est pas prêt à aller à ce genre de profondeur, la mer nous brise en deux, littéralement. Le risque, c'est la syncope, donc la perte de connaissance à la surface. C'est à la surface, généralement, parce que le plus gros de la plongée se fait sur les derniers mètres au retour, parce qu'on vient de se faire un aller-retour, qui est très bien pris en charge à la surface. Les apnéistes de sécurité mettre l'apnée sur le bateau, lui font une insufflation dans le nez. Ça veut dire que le nez, il a beaucoup de capteurs et ça va de suite réveiller l'apnéiste. Et ensuite, il y a un rapatriement ou non au médecin hyperbare près des côtes. Donc là, il y a tout un protocole qui est mis en place, qui est respecté. Il y a des entraînements sécurité qui sont effectués toute l'année pour garder le rythme. Le deuxième risque, c'est l'embolie pulmonaire. Donc c'est se faire mal au poumon, qui est l'alvéole pulmonaire qui se déchire et qui laisse rentrer un petit peu de sang. Donc ça, c'est dû notamment au manque de progression. C'est généralement dû à un apnéiste qui va progresser trop vite ou qui va pas être assez étiré au niveau de la cage thoracique. C'est pour ça que moi, j'ai des professionnels, notamment mon kiné qui me suit toute l'année. Sur la partie coaching, j'en ai pas vraiment, en fait. C'est vraiment un préparateur physique qui s'axe sur essentiellement mes cuisses, qui sont mes propulseurs avec les palmes. Sur la partie coaching, j'ai vraiment été toujours autodidacte, et je n'ai ni préparateur mental non plus. Mes coachs, en quelque sorte, c'est ma famille autour de moi, je le répète souvent, mais c'est eux qui me permettent de trouver la motivation et de garder cette ligne directive au niveau de mes résultats. Ça veut dire que, pour moi, remercier les gens qui m'entourent et ceux qui me permettent de faire ces profondeurs, c'est tout d'abord sortir de l'eau avec le sourire et en montrant une plongée complètement maîtrisée.
Et justement, c'est intéressant que tu parles de ta famille. Comment ils réagissent justement face à ton métier? Je pense à tes parents, je pense à ton conjoint ou ta conjointe, si tu en as un ou une. Comment ils le vivent? Parce que j'imagine que ouais, ça doit faire peur quand même.
Alors, c'est vrai que au début, quand je leur ai annoncé à table à l'âge de 16 ans que je voulais être apnéiste professionnel, ça a jeté un froid. Néanmoins, je me suis vraiment renseigné sur la discipline, j'ai vraiment travaillé sur le message que je voulais faire passer à travers ces résultats et comment je voulais pratiquer l'apnée. Donc, au fil du temps, ils ont vu comment je pratiquais ces plongées, avec quels moyens autour de moi, quels moyens que je mettais en place pour pallier aux risques que je prenais. Donc, ça a été une question de temps. Et aujourd'hui, ils sont complètement rassurés. Mes proches sont rassurés. Il reste une part de stress, hein, parce que c'est humain, c'est comme ça. Mais en tout cas, eux, leur plus grande joie et la mienne aujourd'hui, c'est quand je me lève le matin, je vis mon rêve. Et ça a pas de
Bien
prix.
sûr. Est-ce que tu as déjà eu peur?
J'ai déjà eu peur. C'était l'année dernière, lors de ma première tentative de record du monde, qui s'est très bien passée d'ailleurs. C'était une plongée assez profonde à ce moment-là pour moi. Et au fond de l'eau, il y a un moment où je pars en free fall. Donc le free fall, c'est à partir de 30 mètres, mes poumons ils sont comprimés et l'air qu'il y a dedans ne me fait plus flotter. Donc je glisse comme une pierre. Je vais aller à peu près entre 6 et 7 km heure. Donc c'est assez rapide. Et je glisse jusqu'à la profondeur donnée. Et à ce moment-là, alors je ne sais pas vraiment ce que c'est encore aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui m'a poussé au fond. Donc j'ai été un peu percuté par un dauphin, je pense, parce que c'était assez fort. Donc ça m'a désaxé de mon free fall, un peu comme dans un vol qu'on peut faire en l'air en wingsuit. Et puis j'ai dû me réaxer, repalmer un petit peu, toucher le fond. Et à ce moment-là, le cerveau, il veut pas trop comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il veut pas réaliser l'acte qui vient de se passer. Et puis je remonte à la surface. Et puis je me mets sur la plateforme. Et là, 30 secondes après, il y a des dauphins en face de moi qui faisaient des saltos. Donc ils ont dû me suivre, être attirés par cette forme qui glissait au fond. Ils ont peut-être voulu jouer avec moi. Sauf que moi, à ce moment-là, je n'ai pas de masque. Donc je vois pas ce qui se passe. Ça commence à devenir un petit peu noir. Ça s'est passé l'année dernière en mer Rouge. Donc ça a été une frayeur sur le coup. Et puis un moment magnifique, l'un des plus beaux après coup.
Ouais, ça t'a pas empêché de recommencer et d'y retourner malgré ce petit incident.
Non, finalement, c'était assez. Je considère pas vraiment ça comme un incident. Ça m'a pas blessé, ça m'a pas stressé ou autre. Néanmoins, voilà, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a quelques années, je suis resté. Il y a ma longe qui s'est un peu enroulée autour du câble à 100 mètres, et du coup, elle m'a freiné sur la remontée, et j'ai dû la détacher. Donc, ces quelques secondes que j'ai perdues au fond m'ont fait un petit peu, m'ont déstabilisé un petit peu en me disant, bon, ben là, c'est pas toujours, ça se passe pas généralement comme ça, tu n'as plus de longe au poignet, il va falloir vraiment que tu mettes tous tes automatismes en place pour arriver à la surface. Et en fait, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que les automatismes, les visualisations et ma démarche d'y aller pas à pas et de me laisser toujours un maximum de marge par rapport à ce que je pourrais faire a payé ce jour-là. Donc je suis remonté avec le sourire. J'avais pas la longe, donc il est remonté juste après. Mais en tout cas, très important de se donner de la marge malgré le potentiel qu'on peut ressentir au fond de nous et surtout le potentiel que les gens autour de nous ont envie de nous faire voir et ont envie de nous faire atteindre très vite, plus vite que la normale.
Aujourd'hui, beaucoup n'osent pas prendre de risques par peur justement de l'inconnu, de sortir de sa zone de confort. Toi, est-ce que tu as des conseils et comment toi, à titre personnel, tu gères cette incertitude?
Cette incertitude, peut-être je l'ai eue très tôt, tellement tôt que ça devient naturel aujourd'hui de sortir de ma zone de confort. Pour de conseils, je pense qu'il faut déjà s'entourer de personnes qui sont un peu plus audacieuses que nous, qui vont nous motiver à sortir de cette zone, à aller beaucoup plus loin que l'objectif qu'on s'était fixé. C'est y aller par la technique, du pas à pas. réaliser des choses qui nous paraissent peut-être minimes pour nous et qui vont permettre de faire des grands projets plus tard. Ne pas faire les choses de façon quitte ou double, c'est vraiment y aller petit à petit, ce qui va nous permettre de se découvrir dans ces moments-là un peu nouveaux. Voilà, c'est prendre du recul aussi, parce que aujourd'hui, prendre des risques pour un apnéiste comme moi, c'est pas forcément prendre des risques pour quelqu'un qui va acheter une baguette de pain. Donc voilà, il y a tout un équilibre qu'il faut trouver dans la vraie prise de risque. La vraie prise de risque qui constitue chaque vision de chaque sport ou de chaque profession. Mais voilà, c'est y aller pas à pas et s'entourer des bonnes personnes.
Aujourd'hui, toi, tu as que 23 ans, donc tu es quand même très jeune, c'est ce que tu disais. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, ta différence pour gagner, sachant que, pour m'être un petit peu renseignée, j'ai vu que les autres champions d'apnée sont quand même beaucoup plus vieux, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, ils ont plus d'une trentaine d'années, on va dire.
Je pense que ce qui a fait aujourd'hui mon niveau et ces records à l'âge que j'ai, très jeune hein, pour ce niveau, et c'est qu'il y a une première motivation de faire différemment que mes pairs, c'est-à-dire avoir une démarche encore plus professionnelle, une démarche sur laquelle le chiffre n'est pas forcément important pour moi, ou le record n'est pas important pour moi, mais la manière de faire les choses dépasse tous les résultats qu'on peut avoir. Et du coup, ça m'a levé une pression de faire absolument des résultats ou d'avoir absolument la profondeur ou le record. Et tout est venu assez naturellement. La démarche mentale, voilà, de plonger pour se découvrir, pas forcément aller toucher un chiffre ou aller toucher une profondeur. Puis je pense que c'est surtout une démarche extrême, une vision extrême de ma vie, une vision extrême de comment je pratique et je vis tous les jours ma vie, qui ont fait la différence. Si je fais quelque chose, je le fais vraiment à 100%, sans concession. Donc ça, c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir autant d'implication et autant d'engagement dans un projet qui est pas forcément à 100%, qui est pas forcément prévisible de la réussite. Donc voilà, je pense qu'une démarche extrême avec une vision un peu hors des formats a fait qu'aujourd'hui je peux faire ce genre de
Non, mais c'est
résultat.
super inspirant parce que en fait ça prouve que quand tu mets finalement toute l'implication comme tu dis et comme quand tu persévères, bah, finalement ça marche et t'en es l'exemple même. Donc c'est je trouve ça super inspirant comme message. Avant de passer à des questions plus rapides que j'ai l'habitude toujours de poser en fin de podcast, j'ai une dernière question. Ça concerne tes prochains objectifs professionnels ou personnels par rapport à l'apnée.
Les prochains objectifs professionnels, c'est déjà continuer à rester numéro un. Pas forcément courir après les records, ils viendront d'eux-mêmes, mais voilà, rester au top de ma forme et continuer à performer dans les années qui arrivent. J'ai l'avantage d'être assez jeune et je veux vraiment traverser l'histoire de mon sport en toute sérénité avec de beaux résultats. En deuxième partie, c'est vraiment faire parler mon côté artistique qu'on a pu voir sur ma dernière vidéo Below, de vraiment communiquer les émotions que j'ai eues à l'âge de 16 ans lors d'une vidéo et pouvoir les transmettre au grand public, aux personnes qui n'ont pas forcément la chance aujourd'hui de vivre leur passion. Et pourquoi pas les motiver à se lancer et à prendre des risques.
D'accord, super. Et d'ailleurs, j'ai une petite question parce que par rapport au confinement, est-ce que toi, tu as pu continuer à t'entraîner?
J'ai eu l'avantage de pouvoir continuer à m'entraîner étant sportif de haut niveau. Et c'est vraiment une chance aujourd'hui de pouvoir continuer à travailler, en fait. C'est, comme c'est mon travail, c'est un peu ce qui me permet de performer et de continuer à faire grandir mon entreprise. Donc, c'est vraiment une chance de pouvoir continuer à m'entraîner.
On va finir par des petites questions. Ma première, c'est les questions que l'on te pose le plus, donc que ce soit sur tes réseaux sociaux. Donc maintenant, tu m'as dit que grâce à ton entreprise, tu étais devenu conférencier. Donc sans doute qu'on te pose des questions pendant ces conférences. Donc quelles sont-elles et quelles sont les réponses que tu leur donnes?
Alors la première question, c'est combien de temps tu restes sous l'eau. Alors moi qui pratique la profondeur, c'est pas forcément le temps que je reste sous l'eau, c'est pas forcément important, c'est pas une référence de performance. Ma référence de performance, c'est la profondeur. Néanmoins, en restant sous l'eau, sans bouger, on va dire, je peux tenir 7 minutes. Alors 7 minutes, ça paraît très impressionnant pour la plupart des personnes, sauf que 7 minutes, c'est juste rester sans bouger dans un bain d'eau. Descendre à 100 mètres, ou comme lors de mon dernier record, ça représente ne pas respirer, en faisant un effort, en acceptant un imaginaire qui est avec la pression, avec la mer, et aussi c'est descendre à une profondeur à la force de ses muscles, qui représente le deuxième étage de la tour Eiffel, et remonter à la force de ses muscles. Donc voilà, la profondeur est beaucoup plus technique, beaucoup plus engageante, et plus contraignante que l'apnée statique sans bouger. Mais voilà, chacun sa discipline.
Ta plus grande peur, si tu en as?
Ma plus grande peur, finalement, je suis très jeune, c'est d'avoir des regrets, en fait, de regretter quelque chose que j'aurais pas osé faire. C'est regretter de ne pas avoir vécu la vie ou de ne pas avoir tenté la vie que je rêve d'avoir. Donc ça, c'est, on peut dire que cette peur, je ne la vis plus parce que je suis en plein dans mon rêve et que je le réalise en toute sérénité. Néanmoins, voilà, ça serait de ne pas réaliser ma vie comme je la vois.
Tu n'as pas peur de mourir, t'y penses pas?
Peur de mourir, je pense que aujourd'hui, malgré le sport extrême que je pratique, faut savoir que c'est une question de point de, c'est une question d'échelle. Aujourd'hui, l'apnée en compétition a vu le jour en 1996, ma date de naissance, jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 24 ans, on a vu qu'un seul décès en compétition. Alors que, par exemple, pour les sports équestres, je crois qu'en 2016, il y a eu plus de 11 morts sur une seule année, une année noire pour eux. Le sport automobile ou le windsuit ont beaucoup de morts aussi. Donc, finalement, ça reste un sport extrême parce qu'on ne respire pas et tout ça. Mais toute l'infrastructure que je mets autour de moi et qui est mise en compétition n'est pas vraiment à risque, d'accord, on va dire.
Ta routine pour être en bonne forme physique et mentale?
C'est un entraînement tout l'hiver. Donc ça veut dire que l'hiver, je fais du VTT, de la natation, de la muscu. Je touche pas vraiment à la profondeur. Je vais peut-être aller à la mer ou une ou deux fois, mais je vais pas dépasser les 10 mètres parce qu'il faut que je garde cette faim de retourner à ces profondeurs pour la saison d'après. Mental, c'est des repas en famille, de profiter des moments simples. Et voilà ce que j'aime aussi dans la réalisation de ces objectifs de vie, c'est on a une autre dimension des moments simples, en fait. Le plus beau moment après un record du monde, pour moi, c'est aller à table avec mes petits cousins, avec ma famille, avec mon filleul, et juste profiter de ce moment-là. Donc ça, c'est la partie mentale qui me tient le plus à cœur.
Ta citation préférée?
Il y a plus d'hommes qui sont allés dans l'espace que d'hommes qui sont allés à 100 mètres sans respirer.
Ok, oui, c'est vrai.
Ou bien,
c'est vrai.
En faisant de l'apnée que j'ai commencé à respirer. Une des deux.
Waouh. Ton ou tes mentors?
J'ai pas vraiment eu de mentor. Même petit, j'étais pas vraiment fan en particulier d'une personne. je pense que la lecture m'a pas mal aidé aussi, notamment Les Conquérants de l'Inutile, qui est un livre que j'apprécie beaucoup. Là, dernièrement, j'ai regardé le documentaire de Michael Jordan sur The Last Dance. Voilà, c'est plus une inspiration de mindset qui me permet d'arriver à apprendre de chacun, plus qu'un mentor tout seul qui me permettrait de performer aujourd'hui. Je suis assez autodidacte et que je vis vraiment ma passion, c'est pas un besoin que j'ai aujourd'hui.
Ton plus grand rêve?
Mais je le vis tous les jours.
Quelle chance.
Tous les jours.
Et enfin, ma dernière question, qui est ma question rituelle du podcast. Quelle est ta définition du risque? Et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement?
Ma définition du risque, le risque se matérialise entre ce que je connais et ce que je ne connais pas. Donc c'est vraiment aller de l'avant, pas à pas, et prendre même un minimum de risque. Le premier pas, c'est celui qui est le plus important, et ne pas aller dans n'importe quel chemin et être guidé par une personne, être guidé par une équipe ou des proches pour pouvoir prendre ces risques en toute sérénité.
Merci beaucoup Arnaud.
Merci beaucoup Laura.
Vous venez d'écouter L'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Lo from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.